Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver ce week-end pour notre habituel sixième CQFR de la semaine, le ce à quoi il fallait répondre. Pas de Théo, il est en vacances, mais Shai est avec moi. Alors Shai va à la fois poser les questions et y répondre. Shai qui, en plus d'être Iron Man et polyvalent, c'est un all-around player jamais blessé. Voilà, c'était quoi? C'était Michael Bridges qu'on t'avait donné?
C'est ça, apparemment. Enfin, ouais,
qu'un de nos auditeurs t'avait donné comme comparaison.
C'était mieux, c'était mieux la saison dernière, Michael Bridges. Là je suis un peu moins...
Donc le potentiel de Michael Bridges, voilà. De Michael Bridges te colle bien.
C'est ça, allez, joueur collectif, je ne serai jamais franchise player, mais on est là pour la team. tu vois Michael Bridges...
T'as plus de chance, toi, que Bridges.
Ouais, je pense.
Mais toi, c'est possible.
On verra bien, écoute, hein. Mais ouais, on va. Donc évidemment, merci énormément pour vos millions, j'exagère à peine, de messages et de vos questions. Il n'y aura pas de quiz cette semaine, puisque bon, ça serait un peu délit d'initié si j'ai les questions et que je les pose et que j'essaye de répondre.
Déjà que tu gagnes voilà. Sur les avoirs à l'avance, ouais. À un moment, ça devient de l'acharnement et de l'humiliation. Il y a volonté de me rendre humble, quoi. on lui écrase la gueule chaque week-end.
Mais ouais, du coup, pas de questions cette semaine, mais j'ai bien noté, j'ai mis la petite étoile sur Gmail pour Théo pour qu'il puisse les ressortir plus tard quand sur un prochain CQFR du week-end. Mais donc, on va se poser des questions ensemble. Les questions que vous vous posez, j'ai pas pu tout prendre, j'ai fait un tri, mais merci pour tous ceux qui nous ont envoyé des questions. On va commencer. Question de Alika Villedemont qui nous fait souvent des montages amusants en photo que vous voyez pas, mais nous on s'en délecte en privé. Première question donc, ça concerne le tanking. Selon vous, quel est l'état d'esprit d'un joueur de basket qui tank? Comment un coaching staff manage une équipe qui tank? Et au fait, qu'est-ce qu'une équipe qui tank? Est-ce un groupe de joueurs forts qui font exprès de perdre? Est-ce un groupe de joueurs faibles qui ne font pas exprès de perdre? Et dans l'un ou l'autre cas, comment les prépare-t-on psychologiquement à aborder chaque match? Super les gars, vous êtes nuls, continuez comme ça. Le tanking est antinomique avec l'esprit de compétition et je me demande comment des compétiteurs peuvent intégrer cette pratique dans leur schéma mental, quand bien même on leur fait miroiter la victoire à moyen ou long terme.
Non, je pense qu'il n'y a aucune équipe qui fait exprès de perdre. Je ne crois pas du tout à ça, je ne crois pas du tout au fait qu'il y ait des joueurs à qui on demande « ouais, là, il faut perdre ». Absolument. Pour moi, ce n'est pas ça, le tanking.
C'est dans les hautes sphères, le tanking, c'est la façon
voilà,
dont tu...
Voilà, c'est ça. Ça serait un schéma très raccourci. Même les Pistons, aujourd'hui, ils n'essayent pas de perdre. Les Wizards, ils n'essayent pas de perdre. Les joueurs, eux-mêmes, il n'y a aucun joueur, je pense qu'il n'y a aucun coach qui vient et qui dit « les gars, on doit perdre ». Ce qui se passe, c'est que c'est simple. C'est, en NBA, il y a les meilleurs joueurs du monde. Mais si tu donnes à ton coach et à ton staff une équipe faible à l'échelle de la ligue, bah, tu vas perdre des matchs. C'est aussi simple que ça.
Tout est dans la construction, en fait. Si l'équipe mise en place n'est pas assez compétitive, et parfois il y a des surprises. Il y a des joueurs qui sont des équipes qui ne sont pas censées, le Jazz l'an dernier, qui ne sont pas censées performer parce que l'équipe qui a été concoctée n'avait pas normalement de très bon niveau. Et les joueurs entre eux, parfois il y a une alchimie et ça se passe mieux que ça. Mais les joueurs, il n'y a aucun joueur qui a intérêt même pour pour sa carrière. C'est-à-dire qu'après, tu es identifié comme le joueur qui a été dans l'équipe des Pistons, qui a fait la série catastrophique. Donc aucun joueur a intérêt. Et de toute façon, ça se voit sur le comportement des joueurs et l'attitude des joueurs des équipes qui perdent. Ils ne sont jamais heureux, ils sont déprimés. Donc non, il n'y a jamais des joueurs qui font exprès de perdre. C'est dans l'intérêt des dirigeants, par contre. Le coach, il est un peu entre deux eaux parce qu'il sait pas si c'est lui qui va reprendre l'équipe, qui continue avec l'équipe la saison suivante. Il a quand même intérêt à récupérer le meilleur pick.
Mais même le coach, il essaye pas de perdre. Non. Juste si tu lui donnes des joueurs. Ce qui se passe, c'est que par exemple, tu as des bons joueurs NBA dans ton effectif, il y en a dans chaque effectif. Si à un moment il se blesse, tu peux le laisser au repos plus longtemps, tu lui expliques qu'il faut se reposer, qu'il faut qu'il se remette complètement, des trucs comme ça. Et c'est simple. Regarde, imagine, il y a un tournoi. N'importe quel soir que vous voulez, c'est un tournoi d'adultes, mais t'envoies ton équipe U15. C'est un peu ça le concept du tanking, tu vois. C'est tu fais jouer des jeunes, des joueurs pas expérimentés, des mecs qui ont. Parce qu'il y a des bons jeunes joueurs, mais c'est rare que les jeunes joueurs puissent. Si tu mets que des jeunes joueurs sur le terrain, il y a un manque d'expérience, ça se paye et ça se traduit souvent par des défaites. C'est ça le tanking. Voilà. Et quand t'as des joueurs confirmés, imaginons tu veux tanker. Tu as des joueurs confirmés dans ton effectif, tu sais qu'ils vont avoir un impact positif sur le jeu. Tu les transfères pour des picks, pour des joueurs non confirmés. Tu alignes les. Regarde, c'est simple. Regardez les 5 majeurs, ou même plus que ça. Regardez les équipes alignées sur les dernières semaines par les Pistons, par les Blazers, par les Wizards, par les Grizzlies. Vous regardez les noms, vous voyez où ont joué ces mecs-là, leur âge, etc. Il n'y a pas d'expérience, c'est des mecs de J-League ou qui ont joué essentiellement en J-League. C'est des bons basketteurs. Et peut-être qu'il y en a qui feront une carrière, mais pour la plupart, on sait que c'est des joueurs pas aussi confirmés, pas aussi expérimentés pour jouer à ce niveau et pour briller à ce niveau. Et puis ça se traduit par des défaites en pagaille, quoi.
Ouais, et puis il y a le bon et le mauvais tanking, le sujet qui passionne Benjamin Moubèche. Il y a le tanking productif et le tanking improductif. Donc on voit différents types de tanking aussi en NBA, ne serait-ce que cette saison. Et ça aussi, ça doit entrer en ligne de compte. Mais je suis d'accord, les joueurs ne veulent pas perdre. Les dirigeants prévoient de perdre un maximum quand il y a des tours de draft ou une reconstruction qui les intéresse. Mais il n'y a pas... Les joueurs ne font évidemment pas exprès de perdre en montant sur le terrain. Et il avait une question subsidiaire qui m'était adressée. Est-ce que le tanking existe en WNBA ? J'ai entendu Shai dans Hoop Culture dire que ce n'est pas le cas. Alors c'est moins le cas. Évidemment, quand c'est l'année où il y a cette année Caitlin Clark plus quelques autres joueuses, l'année prochaine aussi, il y a des très très fortes joueuses qui arrivent. Quand c'est des classes de draft plus faibles, les équipes n'ont pas intérêt à tanker. Et surtout, il n'y a que 12 équipes et 8 d'entre elles qui vont en playoff. Donc l'intérêt du tanking est assez limité. Et c'est pour ça qu'on le voit beaucoup moins, il y a moins de matchs, les matchs sont plus compétitifs. Et effectivement, je dirais pas qu'il n'existe pas, parce qu'il y a des équipes qui... Je prends Seattle, qui est une équipe historiquement forte, qui à chaque fois qu'il y a une fin de cycle, une joueuse majeure qui prend sa retraite, à l'époque Lauren Jackson, puis la Sue Bird, puis Brianna Stewart qui est partie, évidemment que ça enclenche une reconstruction avec du tanking et que ça finit dernier ou avant-dernier pour récupérer des bons picks. Mais sinon, oui, ça existe quand même beaucoup moins que ce qu'on a pu voir en NBA à une époque, notamment avant le play-in tournament. On passe à la suivante question de Philippe, qui nous remercie au passage. Même si j'ai 56 ans, j'apprends beaucoup grâce à vous. Merci Philippe.
Merci Philippe.
Alors il nous dit « Je reprends dans son intégralité un tweet du compte Brooklyn Nets France que voici. Peu importe le projet que choisira la franchise, on devrait assister à une intersaison mouvementée. Soit les Nets iront chercher une star à travers un nouveau trade de plusieurs picks, voire en y ajoutant l'un de nos jeunes, soit ils opteront pour un vrai projet rebuild en lâchant les joueurs cadres Bridges, Cam Johnson, Dorian Finney-Smith, pour récupérer le maximum de picks et pouvoir enfin sortir le tank tout en développant Cam Thomas et Noah Clowney. Que préférez-vous entre les deux options ?
Déjà, il y a un vrai problème pour sortir le tank. Je veux juste regarder, je vais me permettre de regarder les picks exacts que les Nets ne possèdent pas et s'il y a des protections. Donc, je vais aller à Brooklyn. Donc, le premier choix 2024 de Brooklyn, il revient à Houston. Ouais. Il n'est pas protégé. Donc, les Nets, aujourd'hui, qu'ils aient le 9e ou le 10e choix, c'est un pick que les Rockets utiliseront. Okay, en 2025, ils donnent leur premier choix. Ils envoient le premier choix à Houston aussi. Comment tu peux envoyer deux années de suite ?
Leur premier tour, c'est le résultat du trade.
Ok, c'est un swap, pardon. Non, mais oui, mais normalement, tu ne peux pas te transférer deux années de suite. C'est un swap, c'est pour ça. C'est un swap. Il y a des protections, mais en gros, tu vas potentiellement perdre ton pick. As a right to protect for Houston, to protect section 110. Celui-là, ça, j'avais jamais vu. C'est à trois équipes avec des swaps. C'est un swap à trois équipes, mais bref. En 2026, tu envoies à nouveau ton pick à Houston et il n'est pas protégé. Voilà. Donc, en gros, si tu as le premier choix de la draft en 2026, les Nets, ton pick revient aux Rockets.
Mais du coup, c'est encore. Je me permets une parenthèse, mais c'est du coup le fameux. Alors, c'est vrai que tu t'avais dit que c'était peut-être
terrible, le transfert d'Arden.
Voilà, et ça, c'est clair. Et le fameux trade qui aurait pu intervenir avec Houston pour Bridges. Du coup, s'il y avait vraiment les pics qui étaient inversés, ouais, parce que sinon, à la place des Nets, il fallait dire oui tout de suite. Mais bon,
je vois pas pourquoi les Rockets seraient sacrifiés autant d'atouts, surtout quand tu vois comment les Nets sont. Je ne crois absolument pas à cette rumeur Bridges contre tous les pics. Peut-être qu'il y avait un pic dans le lot, mais contre tous les pics, ça n'a pas de sens. Parce qu'attends, je n'ai pas fini.
Vas-y.
En 2027, les Rockets ont encore le droit de swap leur pic avec les Nets. Donc, si en 2027, les Nets sont dans un long rebuild et ont le troisième choix de la draft, les Rockets peuvent dire ah, ça c'est notre choix. Voilà, donc c'est une. Donc en gros, tu n'as aucun intérêt de la part des Nets à tanker vénère, en tout cas à tanker pour de bon, parce que donc tu vas échanger Mikal Bridges, Cam Johnson, tu vas récupérer des picks. Mais Mikal Bridges, tu ne vas pas l'envoyer à Washington. Tu vas l'envoyer dans une équipe qui est a priori de qualité.
Ouais.
Pareil pour Cam Johnson. Donc tu vas. Les picks que tu obtiens, c'est des picks, je ne sais pas, peut-être le 12e, le 15e, le 20e choix. Donc tu vas tanker pour finalement avoir ces pics-là, parce que je le répète, tu n'auras pas les pics de ton propre pic. C'est-à-dire, si tu finis avec le pire bilan de la Ligue, ce n'est pas toi qui draft en premier si tu as le premier choix. Tu vas drafter qu'avec les pics que tu as récupérés. Et ils en ont plein des pics. Hein. Ils ont le pic de Phoenix cette année au premier tour. Ils ont tout plein de pics. Le pic de Philadelphie en 2027, mais on est d'accord, a priori, ce n'est pas des équipes qui vont pique très très haut. Ils ont celui des Suns en 2027, on ne sait pas, on ne sait jamais. Tu vois, ils ont celui de Dallas en 2029, il y a des trucs, mais c'est lointain. Donc moi, je pense que non, il n'y aura pas de reconstruction complète des Nets. Le problème, ils ont le cul entre deux chaises. Je pense qu'à un moment, ils ont surévalué certains de leurs joueurs, mais faire venir une star, ça serait bien. Mais il faut voir qui serait disponible. Il faut voir certainement des picks.
Je crois que Philippe parlait, dans l'intégralité du mail où il développait un peu, il parlait de Donovan Mitchell notamment, parce qu'il y a des rumeurs autour de... Mais il n'était même pas sûr, lui, que faire venir Mitchell, ça servait à grand-chose avec ce supporting cast-là.
Ça serait léger, mais bon, à l'Est, tu ne sais jamais. Mais oui, Mitchell, Bridges, mais je pense qu'il faudra peut-être sacrifier, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un Nick Claxton qui va devoir sauter, un Cam Johnson... Mais je serais très surpris que les Nets activent un full tanking sans récupérer au moins leur pick, ou alors des picks d'une équipe qui est potentiellement mal classée. Et normalement, les équipes potentiellement mal classées, elles ne vont pas échanger leur pick contre un Mikal Bridges, ça ne les intéresse pas.
Et y a le facteur, moi, je ne crois pas à une reconstruction. Il y a le facteur Ben Simmons qui est dans sa dernière année de contrat, je crois, et très très cher, dont on ne sait pas s'il va réussir à jouer. Et ils ont dit qu'ils n'allaient pas le trader et qu'ils allaient le conserver, oui, parce qu'il n'est pas tradable non plus.
Mais leur espoir, c'est de se relever, en fait. Leur espoir, c'est de faire une bonne saison. Et c'était l'objectif, sans doute. Il y a eu les blessures de Cam Johnson, il y a un Mikal Bridges qui n'a pas fait une très bonne saison, il y a eu Ben Simmons, il y a eu un peu une espèce d'atmosphère moribonde, mais les Nets, à la base, n'étaient pas partis pour finir 11e, je pense.
Non, clairement, on en parlait comme d'une équipe qui pouvait... une équipe de play-in, déjà, tu vois. Et puis peut-être après, s'ils trouvaient leur rythme, si Ben Simmons était performant. Bon, c'était beaucoup de si, mais ça ne s'est pas réalisé. Et je suis saison décevante et je ne sais pas trop non plus à quoi m'attendre. Il y a aussi la question du coach. Faut voir aussi quel type de coach ils vont. Ça donne un indice aussi en général quand même. Là, c'est Kevin Ollie, ce qui va être conduit. C'est plus de l'intérim pour l'instant, mais c'est aussi presque un entretien d'embauche cette fin de saison. Et c'est pas la folie pour l'instant. Écoute, on verra, on suivra ce que feront les Nets.
C'est une équipe intrigante à suivre en tout cas.
Ouais.
C'est une équipe. Ennuyeuse d'un certain point, mais intrigante à suivre.
Ouais. Alors, question plus personnelle cette fois, question de Jackie Chanel. Quel que soit votre sport, basket ou foot, donc il nous parle à nous parce qu'il sait que toi tu es basketteur et moi plutôt footballeur, j'aimerais savoir quel genre de joueur vous êtes. Est-ce que, il y a deux questions principales, est-ce que vous tendez la main pour relever un joueur adverse? Est-ce que vous acceptez la main tendue d'un adversaire pour vous relever? Et est-ce que vous êtes ou avez été capitaine de votre équipe? Voilà, trois questions.
J'ai été capitaine brièvement en cadet, mais ça voulait rien dire. Et je pense que c'était déjà juste parce qu'il y a un match où il fallait mettre un capitaine, fallait que ce soit précisé sur la feuille de match et le coach m'avait dit que c'était moi le capitaine, mais j'ai jamais vraiment été, enfin ça a jamais été un truc parlant ou quoi que ce soit. Et pour le reste, je suis à la fois celui qui va se laisser relever par un adversaire et celui qui va relever un adversaire.
C'est beau.
Je suis plutôt pisse comme mec.
Alors moi, pour le coup de relever et se faire relever 90% du temps, oui. Après, j'ai un côté dark side sur le terrain, un peu quand je peux vriller, ça m'arrive de vriller après avoir pris un coup parce qu'un mec me parle mal. Ça m'est déjà arrivé d'être un gros rageux sur le terrain et de manquer peut-être de... Pas de manquer de fair play avec des gens qui te respectent à la base. Mais oui, ça m'est déjà arrivé de... décliner une proposition pour qu'on me relève si on m'a mis un tac de boucher, ça m'est déjà arrivé. Mais globalement, je tends la main et je suis plutôt fair play. J'ai pas pris un million de cartons dans ma vie. J'avais parlé des fameux 7 matchs de suspension que j'avais pris, mais parce que l'arbitre pensait que je lui avais mal parlé, mais c'était un quiproquo. Sinon, non, globalement, je fais pas trop de trucs anti-fair play. Et capitaine, j'étais capitaine 2-3 saisons en tout. Une fois en moins de 15, une fois sur une demi-saison en senior parce que le capitaine était blessé. Et là, c'est une autre forme de foot, le 5 que je joue depuis 10 ans. C'est moi le capitaine, mais ça veut rien dire. C'est juste parce que
t'es quand même souvent capitaine.
Non, mais c'est parce que c'est moi qui organise, c'est moi qui dit qui est là, qui est dispo et qui voilà, c'est plus ça. Et puis parce que je suis pas trop caractériel et en général dans ce genre de truc, c'est plutôt ce qu'il faut quoi. Mais ouais, on va dire quelques saisons capitaine. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Question de Michael. Question de Mickaël, un peu longue, mais on va prendre le temps de la lire. J'aimerais soulever une incohérence et avoir votre avis. Souvent dans vos réflexions, vous estimez que les Lakers seront certainement éliminés au premier tour des playoffs ou au mieux en demi de conférence. C'est vrai, j'acquiesce, on dit plutôt ça. Pourtant, dans votre top 20 des meilleurs joueurs NBA, vous mettez LeBron 11e et AD 14e. Comment est-il possible de mettre LeBron et AD si haut et d'estimer que les Lakers seront éliminés au premier tour, surtout que le supporting cast est très correct, meilleur que beaucoup d'autres contenders? Du coup, je pars du postulat que soit les Lakers iront plus loin que vous ne le pensez, soit vous placez peut-être l'un des deux joueurs trop haut. Qu'en pensez-vous?
Pour moi, LeBron, on l'a mis trop haut.
C'est de ma faute. C'est moi qui l'ai drafté.
C'est un top condensé, en fait. C'est ça qu'il faut se souvenir, sur se dire sur 11 et 14, c'est que c'est un top condensé. Enfin, quoi que je dis LeBron, on l'a mis trop haut. Enfin, mais...
Il était 10e, non? C'est ça, 10 ou 11e? Oui, c'est 11e, c'est ça, c'est ce qu'il nous dit.
Ouais. Au final, on n'a même pas forcément mis si haut. Ensuite, il y a quand même un truc. Ça aurait été beaucoup plus étrange si on avait mis les deux Lakers dans le top 10. C'est quand même vraiment... Tu vois, enfin, je suis sur la symbolique, j'exagère, mais pour moi, c'est vraiment les 7-8 meilleurs joueurs. C'est eux qui te mènent loin, en fait. Et je dirais même plus les 5 meilleurs joueurs de la Ligue. C'est eux qui peuvent... Ou tu sais que si tu as un de ces mecs-là, tu vas aller loin. Si tu as deux gars, 10 et 12, oui, tu as potentiellement une bonne équipe, mais ce n'est pas forcément dire que tu es armé pour le titre. Déjà, c'est la première chose. Ensuite, le supporting cast, il est bon, mais il n'est pas exceptionnel. Et surtout, il manque, et c'est le problème des Lakers depuis le titre, il manque de two-way players. Depuis le titre, c'est la seule année où ils ont eu vraiment des two-way players. Depuis, à chaque fois, c'est soit tu as des mecs qui sont bons en attaque, mais qui ne défendent pas, soit tu as des mecs qui sont bons en défense, mais qui n'ont pas de tir à 3 points. Et là, les Lakers, ils ont un très bon 5 majeur, je trouve, mais ça manque de qualité défensive. Le banc, il est inexistant par moment. Donc non, je pense vraiment que cette équipe... En fait, la saison régulière, c'est la saison régulière. Ce n'est pas toujours significatif. Il y a des circonstances atténuantes. Par exemple, il y a certaines équipes, des fois, tu sens qu'elles ne sont pas à leur place. Les Philadelphia Sixers, par exemple, aujourd'hui. Mais il y a quand même... Ce n'est pas un hasard, des fois, si tu es genre 8-9e. Et les Lakers, ces dernières années, depuis le titre... Ils sont passés une fois par le play-in, une fois 11e, une fois par le play-in. Et j'oublie une saison ? Non, c'est ça, il y a eu 3 saisons depuis.
C'est ça.
Et là, ils sont encore au play-in. Donc, ce n'est pas un hasard, tu vois. À un moment, si tu es sur 4-38, ce n'est pas complètement un hasard. L'an dernier, oui, ils sont allés loin. Je pense aussi qu'il y a des circonstances. Je suis désolé. Les Grizzlies, pour moi, n'étaient pas à leur place non plus, tu vois.
Merci de les défendre.
Non, ils n'étaient pas à leur place. Ils n'auraient pas dû finir dans le deuxième, pardon.
Oui,
je ne comprends pas.
Double.
Dans ce sens-là, c'est que c'était pas une des meilleures équipes de l'Ouest pour moi. C'était le résultat d'une saison régulière, comme le Jazz a parfois été dans les premières positions. Et là, par exemple, on n'a pas mis que deux Lakers. Donc, les Lakers, c'est 11 et 14. Mais on a aussi mis deux Suns avec encore mieux placé que ça. Et pourtant, les Suns, on sait aussi qu'il y a des limites. On a mis deux Clippers. Non, Paul George, je crois,
n'était pas dedans.
Je l'avais dans mon truc, mais tu vois. Donc, on a quoi ? On a deux Bucks. Ouais, après, les Bucks, c'est vrai qu'on est quand même un peu plus ambitieux. Mais voilà, je pense que les Lakers, il y a deux très fortes individualités, oui, mais je ne pense pas qu'il y ait l'équipe qui aille très loin.
Il faut rappeler un truc aussi, c'est que là, dans l'exercice là, qu'on a fait, on prenait les joueurs individuellement comme première option et donc pas forcément avec ce supporting cast-là. C'est-à-dire ça veut dire qu'on peut imaginer aussi qu'un LeBron ou un AD dans d'autres équipes avec un supporting cast quasi, je crois que même dans l'exercice c'était un supporting cast très compétent, donc quasiment adapté à eux. Bah, peut-être que là on les mettait 11e et 14e et ils joueraient quelque chose de plus gros que ce qu'ils vont jouer avec les Lakers, mais bon voilà, c'est
tout à fait raison.
C'est aussi ça, fallait rappeler l'exercice. Et du coup, il avait une deuxième question dans la foulée qui était liée à LeBron justement. Il nous dit « J'ai dû voir 6-7 matchs des Lakers cette année et la non-défense de LeBron m'a choqué. Sur la globalité des matchs, il choisit quelques actions où il est focus, mais 80% du temps, il est passif. À un point où parfois, on voit même certains regards dépités de la part de ses coéquipiers. Est-ce que ce manque d'envie défensif ne peut pas trop pénaliser les Lakers en play-off ? » Alors, dans la foulée, c'est que... Effectivement, on l'a souvent souligné, Antoine et moi-même, même Théo, on a souvent dit que LeBron... Et c'est normal à 39 ans d'être moins impliqué défensivement, enfin en capacité de faire attaque-défense. Je crois quand même à son crédit qu'il est capable, comme tu disais, de se focus et sur une série de playoffs, sur plusieurs matchs, d'être un très très bon joueur défensif encore. Et peut-être que ça va se payer de l'autre côté, mais j'ai pas tellement vu de regard dépité des coéquipiers, personnellement, sur les matchs que j'ai vus. Je pense qu'il a encore quand même cette aura qui fait qu'il... Et puis, il est tellement bon encore de l'autre côté que je n'ai pas l'impression que ses coéquipiers lui en veulent. Et ça pénalisera les Lakers s'il n'arrive pas à faire cette bascule sur des matchs importants ou pour pas qu'Anthony Davis soit l'arbre qui cache la forêt, je pense.
Ouais, ça résume aussi peut-être pourquoi je pense qu'on l'a mis un peu haut ou pourquoi ça rejoint, je parlais de supporting cast, manque de two-way, LeBron, c'est plus forcément un two-way player, mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en playoff, il peut hausser son niveau de jeu de ce côté-là. Et il l'avait fait quand même lors des derniers playoffs. Ouais. Ça Ça avait été d'ailleurs assez déterminant pour les Lakers. On verra s'il a encore le jus pour le faire cette année. Mais je suis pas surpris, oui, qu'il défende plus. Bah ouais, 39 ans. Hein. Kobe non plus, il défendait plus à la fin. Il avait encore l'étiquette de défenseur pendant un moment. Et
faut choisir en fait. Faut choisir entre rester, parce qu'il a, il a des stats irréelles pour un joueur de 39 ans et son impact sur le jeu, il est dément. Il faut, ouais, ça aurait été ultra étonnant s'il était encore éligible pour une All Defensive Team. Enfin, ce serait un martien là. Ce serait plus possible. Donc c'est logique et t'es pas le seul à l'avoir remarqué, Mickaël.
Et c'est pourquoi les Lakers, par exemple, dans un contexte de play-off, ils ont trop de joueurs que tu peux cibler, tu vois.
Oui.
Que ce soit Austin Reeves. Alors, LeBron, je n'irais pas jusqu'à dire que tu peux le cibler, mais tu sais qu'il va y avoir des... Mm. Peut y avoir des... C'est pas c'est plus le match-up ultra flippant que tu peux avoir, en tout cas défensivement. Il y a des trucs comme ça. Austin Reeves, D'Angelo Russell, tu sais qu'il va y avoir des brèches, tu sais qu'il va y avoir des rotations qui sautent. Et Anthony Davis qui essaye de cacher tout ça du mieux qu'il peut et qui je pense est le meilleur défenseur de la ligue, il sera peut-être pas Deep Boy, mais le vrai meilleur défenseur de la ligue, c'est peut-être lui. Mais bon, Anthony Davis, il peut pas toujours tout faire contre certaines attaques, quoi.
C'est ça, parce que lui aussi doit essayer d'être performant de l'autre côté, et c'est aussi important pour les Lakers. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que le joueur clé c'est Anthony Davis, et je pense que ce sera encore le cas cette année s'il arrive à être fiable en playoff. On verra, ça arrive très vite. En play-in déjà, parce que déjà les Lakers vont devoir passer par là. Question suivante de Rémi. Bonjour, j'écoutais le CQFR de ce matin où Antoine Echaille évoquait la rumeur Klay Thompson à Orlando et le futur des Warriors, la fin de la dynastie. Du coup, je réfléchissais à l'évolution de la hiérarchie à l'Ouest dans les prochaines années et j'ai l'impression que c'est très indécis. C'est déjà hyper dense et pourtant on peut imaginer que les Rockets et les Spurs, même les Blazers, vont progresser, que Memphis va remonter avec le retour de Morant. Quelle dynamique de progression ou régression envisagez-vous à court et moyen terme ? Qui tankera, qui jouera régulièrement les playoffs dans les deux années à venir et dans 5-6 ans ? Et puis franchement, merci pour tout ce que vous faites. Qu'est-ce que c'est bien d'entendre des gens qui s'écoutent et qui débattent en se complétant. Merci à toi Rémi.
Merci à toi Rémi.
Antoine, est-ce que tu as des dynamiques qui te paraissent...
Alors, sur 5 ans, c'est dur à savoir parce que la Ligue évolue très vite, notamment au niveau des trades. Il y a des équipes qui forcément vont descendre. Je vais essayer de prendre chaque équipe de la Conférence Ouest. Je pense que les Nuggets... Que ce soit 2 ou 5 ans, tant qu'il y a Nikola Jokic, ce sera une équipe qui candidate au titre. On est d'accord là-dessus.
Oui.
Les Timberwolves, ça dépendra selon moi beaucoup d'Anthony Edwards, s'il reste. Mais a priori, on est dans le début de l'ascension. Donc, généralement, les joueurs restent dans leur franchise. Donc, je pense quand même que ce sera une équipe à peu près compétitive. Je ne sais pas si elle sera vraiment candidate au titre, Minnesota. J'en suis pas convaincu aujourd'hui. Ça dépendra de ce qui se passe autour d'Edwards. Mais tant que tu as Edwards, tu sais que tu seras pas dans une optique de reconstruction, tu as déjà ta superstar, tu seras dans une optique d'être compétitif et de jouer des playoffs. Donc je pense que ça devrait plutôt bien se passer. Le Thunder sera selon moi un candidat au titre très prochainement.
Ouais.
Je ne sais pas s'ils gagneront tout, parce que j'ai l'impression que gagner tout, ça sous-entend que ta superstar, elle atteint encore un autre level. Mais Shea, il est sur cette ascension, il est sur cette pente. Donc a priori, on verra jusqu'où ça va, mais... Les Clippers vont devoir passer par une reconstruction sur les 5 ans, ça me semble inévitable. Sur 2 ans,
peut-être.
Ils seront peut-être encore compétitifs.
Tout dépend de comment vont vieillir Kawhi, Paul George, Harden.
Si Paul George reste, ouais.
Il y a ça aussi.
Mais après ça,
je suis d'accord avec toi sur les équipes qu'on a évoquées. Et moi, je pense, j'ajouterais bien, alors plutôt pour les équipes. C'était la question, hein, c'était de toute façon, c'était la question sur les équipes comme ça. Il y avait, alors, donc la fin de dynastie des Warriors, bon, bah oui, c'est inévitable. Les cadres sont trentenaires, il y en a qui tirent la langue. Donc oui, dans 5 ans, c'est compliqué. Ils ont encore une fenêtre sur 2-3 ans avec quelques leviers activés s'ils veulent rester compétitifs. Moi, c'était plus, je m'intéresserais plus aux équipes émergentes, on va dire, qui sont peut-être même pas encore en play-off et tout ça. Et j'ai pas mal parlé de Houston ces derniers temps. Je vais surveiller de près Houston, je pense, parce que pour moi, il y a le coach adéquat qui, à mon avis, aurait pas été là. Il serait toujours à la tête des Celtics s'il n'y avait pas eu cette affaire dont on ne sait toujours pas grand-chose. Mais visiblement, il est apte à coacher en NBA. Il n'y a rien de gravissime, a priori. Je trouve qu'ils ont le coach adéquat. Ils ont des jeunes joueurs, Shengun, Jalen Green, plus quelques vétérans. Ils ont des leviers aussi à activer pour progresser. Je pense que dans les équipes 5 ans, donc du coup c'est une bonne fenêtre, mais ça peut aussi être 3 ans. Je pense que eux, on les verra un peu plus proches des places qui comptent dans les années à venir. À l'Ouest, je vois cela, et ça veut dire qu'il y a forcément une ou deux équipes qui vont qui m'ont régressé par logique.
Les Lakers, par exemple, voilà. On ne sait pas. Les Kings, ça va régresser.
Les Kings, j'ai du mal à savoir parce que stagner. Il n'y a plus de l'effet de surprise. C'est des bons joueurs. Le duo Fox-Sabonis, ça t'assure de ne pas être au fond du trou. Mais est-ce que c'est suffisant pour tous les ans être en play-off ? Là, on voit que cette année, non, parce qu'ils font le play-in. Voilà, c'est un peu la dynamique. Et tu vois d'autres équipes à l'Ouest qui sont pour l'instant à la cave. Et bah, San Antonio, dans les 5 ans, forcément. On imagine que...
Oui, d'ici 5 ans, je pense que c'est 2 ans, ça me semblera trop court, mais d'ici 5 ans, San Antonio devrait essayer de revenir dans la course au play-off. Pour ça, je dis, c'est très dur de savoir, parce qu'il y a des équipes qui vont... En fait, il y a des équipes qu'on connaît aujourd'hui qui vont exploser d'une manière ou d'une autre. Oui. Tu vois, les Suns, on ne sait pas ce que ça a donné. Les Warriors, dans 5 ans, on peut imaginer que ce sera la reconstruction. Les Lakers aussi.
Ouais.
Après, tout dépendra. Tu vois, si des équipes comme les Pelicans, elles plafonnent, il ne faut pas exclure qu'à un moment, ça saute. De la même manière pour les Kings. Sur les 5 ans, c'est dur de savoir, tu vois. Sur 5 ans, tu sais jamais ce qui peut se passer.
Ouais.
Mais on peut imaginer que oui, Spurs, ça va monter. Blazers, j'ai l'impression que la reconstruction sera un peu plus longue.
Oui, bah oui. Bon, c'est des très jeunes joueurs, donc ça va. Mais...
Ouais.
Bah, tout va dépendre aussi. Je veux dire, si tu récupères un Cooper Flagg et qu'il est digne du talent qu'on lui prête à la manière d'un Wembanyama, où tu sais que dans les 2-3 ans, ça va être plus compétitif, ça change beaucoup de choses. Mais il y avait du coup, cette fois, c'est une question de Guillaume, mais c'est dans la... C'est dans la suite, parce que ça parle des Warriors, qui sont une des équipes en question. Il nous dit, dans le CQFR de lundi, vous avez parlé de longuement de Klay Thompson au Magic. Franchement, j'ai adoré cette équipe des Warriors, sûrement une des toutes meilleures de tous les temps, mais j'ai l'impression que ça va finir en eau de boudin. Et ce transfert ne serait-il pas la meilleure solution pour tout le monde ? Faudrait pas aussi se débarrasser de Draymond au passage ? Et voilà, donc il nous demandait si les Warriors étaient, selon nous, vraiment sur la fin, et qu'il fallait pas... Alors voilà, c'est toujours, en fait, c'est la question à double tranchant, c'est est-ce que ils doivent accepter de mourir avec leurs idées et avec leur histoire, avec les trois, quoi qu'il arrive, même s'ils sortent, là il y a une chance sur deux qu'ils sortent dès le play-in, ou est-ce qu'ils doivent tenter quelque chose en s'appuyant sur la fin du prime de Curry, sur ce qu'apporte encore Draymond, est-ce qu'ils doivent faire des trades, bouger, voilà, c'est, je sais pas ce que t'en penses.
J'ai l'impression qu'on nous pose souvent la question. Moi, je serais d'avis que t'as eu une dynastie. T'as envie que ces mecs-là, ils finissent chez toi. T'as envie que le dernier match de leur carrière, c'est devant ton public, le public qui les a aimés pendant 15 ans, qui est une ovation. T'as pas envie de les voir avec un autre maillot. Ils ont pas besoin d'aller chasser une bague ailleurs. Peut-être qu'ils auront envie de le faire, parce que peut-être qu'ils auront toujours fin de titre et que si à un moment les Warriors sont plus compétitifs, peut-être qu'il y aura une volonté d'aller ailleurs. Mais je pense que de toute façon, tant que tu as Draymond, Curry et Clay, tu seras un semblant compétitif. Ils ont la malchance de jouer à l'Ouest. Cette équipe à l'Est, elle serait dans le top 3 peut-être. Hein.
Ouais.
Elle a 45 victoires en jouant essentiellement contre des équipes de l'Ouest. Elle jouerait à l'Est, elle serait sans doute dans le top 3 et on la verrait complètement différemment parce qu'elle est dans le top 3 de sa conférence. Au passage, petite très léger parenthèse, tu sais, sur cette histoire de Doncic 5e, 4e. Les Mavs de Doncic toujours cette histoire de la narrative de Doncic peut être MVP que si les Mavs sont dans le top 4. Comme j'ai dit, ils seront peut-être à une victoire du top 4 et ils seront 5e alors qu'ils ont le 6e meilleur bilan de la ligue et qu'ils ont 50 wins. Il a gagné plus de matchs que quand Jokic était MVP les deux années.
Ok,
voilà, juste au passage j'ai vu c'est... C'est une petite parenthèse, mais j'y ai pensé là en parlant des victoires. Mais attends, les deux.
De toute façon, il y a toujours cette question. Là, tu parlais de l'Ouest-Est. Oui.
Oui, c'est ça, les deux années.
C'est impressionnant. Ouais.
Ils font pas 50 wins, les Nuggets, Nuggets, Jokic MVP.
Ouais.
Et juste, du coup, sur les Warriors, je suis pas sûr que reconstruire. En plus, essayer de reconstruire comment ? Tu changes complètement ton style de jeu, tu transfères Green, tu laisses partir Thompson, mais tu gardes Curry, donc il te faut d'autres joueurs autour de Curry. Et pour l'instant, est-ce que même tu récupères des All-Stars, un All-Star en échange de Green, qui tu signes ? Tu peux pas remettre une équipe compétitive.
C'est ultra casse-gueule pour Dunleavy. C'est ultra casse-gueule pour Dunleavy parce que si c'est le gars qui a. T'imagines, t'es le gars qui a brisé le trio historique des Warriors. Et derrière, t'es pas sûr du tout que ça fonctionne et que ça amène au titre. Alors que ce qui est safe, c'est de dire bon. Et moi, c'est la solution pour laquelle j'opterais parce que bon, le côté un peu romantique de finir avec à peu près comme les Spurs dans leur prime ensemble, même si après il y en a un qui a bougé, mais c'était déjà à la fin de l'histoire. Et Dunleavy, je me dis, il peut pas vouloir être le gars qui sépare. On s'en souviendra toujours. Ah ouais, Dunleavy, il nous a pas laissé finir ensemble. Tu vois, je crois pas, parce que le risque me paraît trop grand. C'est safe de se dire, non, allez, on va encore quelques années ensemble. S'il y en a un qui fait une demande, éventuellement, on l'étudie, mais j'ai pas l'impression qu'il veuille jouer séparément. Donc, non, voilà, on est assez d'accord tous les deux, Guillaume. On opte pour la stabilité, évidemment. Ça veut dire que Draymond doit arrêter de faire le con sur le terrain. Que c'est mieux si Clay retrouve un niveau stable, que Steph reste à ce niveau-là. Mais globalement, je suis pour que ça reste comme ça. Question de Rudy. Merci pour l'excellent MOOC Spurs que j'ai finalement bien reçu après être rentré de mon trip au Texas. Mais le MOOC me rappelle quotidiennement mes 3 visites de mars dans l'antre des Spurs. Quelle chance. Ma question toutefois concerne Kevin Durant et sa legacy. Dark Pimel a évoqué récemment que pour lui, il aurait pu être le joueur le plus fort de l'histoire, et pas seulement parce qu'il a un jour dunké sur Shai Mamou. Je pense la même chose sur le potentiel, son shoot létal à mi-distance, sa grâce et sa fluidité. Ma question est, si KD pouvait potentiellement être le GOAT, est-ce qu'au final, il sera à la fin de sa carrière dans le top 10 all-time? Si je devais faire mon classement all-time, alors il nous fait une petite proposition, en gros, rapidement. Numéro 1, ouvert à la discussion, il marque. 2, Jordan. 3, LeBron. 4, Russell. 5, Magic. 6, Duncan.
Non, numéro 1 est ouvert à la discussion.
Ouvert à la discussion, donc c'est entre Jordan et LeBron, j'imagine, vu qu'il les met 2 et 3. Okay. 4, Bill Russell. 5, Magic Johnson. 6, Tim Duncan. 7, Steph Curry. 8, Wilt Chamberlain. 9, Larry Bird. 10, Shaquille O'Neal. 11, Oscar Robertson. Que manque-t-il à KD si vous aussi vous pensez qu'il n'est pas top 10 all-time pour intégrer ce club?
En fait, je pense que le classement all-time, le problème, c'est que ça ne prend pas en compte que... Enfin, le problème, ce n'est pas un problème, mais ça ne prend pas en compte que le niveau de jeu. Il y a une notion de grandeur. Les plus grands joueurs de tous les temps, il y a une notion de palmarès, d'accomplissement. Et c'est même... Il y a tout un aspect... C'est comme pour le MVP, tu vois. Ouais. Il y a tout un aspect narration. C'est pas juste le niveau de jeu que tu as atteint à tel moment.
Il y a l'impact culturel,
Et ça, du coup, il manque beaucoup à Kevin Durant. Tu vois, quand tu vois les noms qui citaient, il faudrait des campagnes. Je sais pas, il faudrait que d'un coup, Kevin Durant, il sorte 3 ou 4 campagnes légendaires avec les Suns et qu'il mène Phoenix à 2 ou 3 bagues en étant à 35 ans, le truc improbable. Et que, du coup, il y a une histoire qui se crée autour, mais. Je pense, si tu me parles en termes de niveau de jeu atteint sur sa carrière, ouais, peut-être que Kevin Durant serait dans le top 10. Mais là, je pense dans quasiment aucun top 10, il sera cité. Par contre, il y a des jeunes qui ont grandi et qui vont. Et de la même manière qu'aujourd'hui, un Brandon Miller dit que Paul George, c'est son GOAT, il y a des mecs sans doute qui ont grandi et qui vont dire leur GOAT, c'est Kevin Durant. Il y en a déjà, en fait.
Ouais. Mais c'est. Oui, de toute façon, tout le monde est d'accord sur le talent. Tu peux pas dire que le mec n'est pas top 10 all time. Sur le talent pur, sur ce qu'il est capable d'apporter sur un terrain, c'est un des tout meilleurs attaquants dans la variété de ce qu'il peut faire de tous les temps. Ça fait aucun
doute.
Peut-être
le meilleur.
Peut-être même le meilleur. Défensivement, c'est quand même un bordel. T'as Kevin Durant avec sa longueur et tout. Il y a des années où il a fait des saisons all defense, quoi. C'est tellement il était fort. Donc oui, après, c'est la narration, c'est l'impact culturel, le fait, la façon dont il est parti d'une équipe pour en joindre une autre, le fiasco à Brooklyn va lui être reproché aussi. Après, peut-être que dans 20 ans, les gens auront oublié, mais tout est documenté maintenant et les gens se souviennent. Il y a plus de choses, tu vois, on ne sait pas, à l'époque, dedans, il y a des joueurs Russell, Magic, c'est... Bon, le Russell, c'est particulièrement vieux, mais pour la narration, dans le contexte de l'époque, s'il y avait eu les réseaux, autant d'articles de couverture médiatique, peut-être que des choses auraient fait que c'était pas pareil, mais... Donc, KD, je pense, ne sera jamais considéré dans un top 10 all-time, globalement, par la majorité des gens. Par contre, dans d'autres classements qui ont leur valeur aussi, meilleur attaquant, joueur le plus emblématique d'une génération, il sera dans les top 10. Voilà, meilleur scoreur. Il sera, je veux dire, c'est une légende, il sera au Hall of Fame, une main dans le short, évidemment. Mais, top 10 all-time, je pense que c'est... Et donc, là, pour répondre à la question, ce qui lui a manqué, c'est tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire... peut-être des titres en tant que joueur unique qui emmène son équipe. Un titre avec OKC, je pense que ça change beaucoup de choses. S'il gagne avec OKC, que ce soit... Bon, en 2012, c'était compliqué, le hit, c'est fort. Ou après, s'il avait... aux Warriors, tu pouvais pas, c'était pas son équipe, c'était le meilleur joueur de l'équipe sur les campagnes où il était, mais c'était pas son équipe. C'est de la perception encore, hein, mais...
Et, 2016, c'est l'acte manqué.
Ouais.
Coïs for le Thunder.
Oui, contre les Warriors, justement. Et derrière le choix de rejoindre les Warriors, dans l'inconscient, c'est assez compliqué. Et après, je pense que l'échec Brooklyn est important, parce que là aussi, là, il était pilote du projet, ça aurait été son équipe. Il y avait de quoi remporter un ou plusieurs titres, et ça n'a pas fonctionné. Et le choix après de rejoindre Phoenix, où il y a déjà un capitaine aussi de route.
Et les Suns sont partis pour être décevants, en plus.
Les Suns sont... Voilà, la fenêtre est très courte, et ils ont pas la tête d'une équipe qui va gagner cette année, en tout cas. Donc voilà les raisons selon nous. Question d'Alexandre qui nous propose, qui nous proposait à la base une idée de draft qui était assez intéressante et je l'ai mise de côté pour que Théo nous la fasse parce que sa présence est nécessaire. Mais il nous a aussi envoyé quelques hot takes auxquels il aimerait qu'on réagisse rapidement. Il nous dit, j'ai plusieurs hot takes. Quel est votre avis de totalement d'accord à c'est n'importe quoi? Alors, la première, si les Celtics ne sont pas en finale NBA, on sera sur l'une des plus grosses contre-performances de l'histoire récente.
D'accord. D'accord.
Alors, moi, je suis plutôt d'accord
pour totalement
ça.
D'accord.
Moi, je suis pas totalement d'accord, mais je suis plutôt d'accord. Ouais. Un écart aussi important en saison régulière, ils ont eu entre 13 et 15 victoires d'avance sur le deuxième à l'Est. Donc, alors là, c'est le titre, c'est ça. En finale NBA,
finale
NBA, très gros échec.
C'est pour ça que je suis voire totalement d'accord.
Ouais. Je suis totalement d'accord. Je pensais que c'était le titre, mais totalement d'accord. Jalen Brunson est aujourd'hui, ouais, c'est pour Antoine celle-là, ils ont voulu est aujourd'hui un meilleur point guard que Damien Lillard.
Je crois que je l'ai mis devant Lillard, non, dans le top, ou je l'ai mis derrière Lillard.
Je sais plus.
Je crois que je l'ai pris avant Lillard. Je crois que je l'ai pris avant Lillard possible. Parce que j'avais noté le côté l'âme, tout ça. Je sais pas, je suis pas sûr. En fait, c'est trop quand tu parles de joueurs entre la 7e et la 20e place en NBA de ce classement hypothétique des meilleurs joueurs. Ça n'a pas trop de sens entre 7 et 20 parce que d'une saison sur l'autre, ça change selon les performances. Enfin, ça change. Leur niveau de jeu en réalité reste le même. La perception change. Leur niveau de jeu peut-être évolue aussi. Je ne suis pas convaincu que Lillard. Je pense que Lillard est plus talentueux que Brunson.
Oui, il y a plus
Brunson,
de talent.
Brunson, là, et a une équipe parfaite autour de lui. Il met l'équipe parfaite autour de Lillard et ce n'est pas dit que Lillard n'aille pas encore plus loin.
Mais
de
c'est
Brunson.
Ça. Là, c'est parce que maintenant, Lillard, aujourd'hui, c'est pas un franchise.
Je suis pas tout à fait d'accord. En fait, du coup.
Moi non plus, je suis pas tout à fait d'accord parce que, par contre, Brunson est sur la phase ascendante et c'est le joueur parfait pour cette équipe des Knicks là. La preuve, c'est qu'ils ont fait que des mecs de Villanova autour qui se connaissent, donc c'est quand même pensé, c'est réfléchi. Après, peut-être que si tu mets Lillard dans cette équipe là des Knicks aussi, il fait au moins aussi bien, on n'en sait rien. Mais non, je suis pas totalement d'accord. Au niveau du talent, Lillard est meilleur. Par contre, Brunson aujourd'hui est un franchise player. Lillard ne l'est plus parce qu'il y a Giannis par définition. Hein. Donc il est sur une phase plus ascendante que Lillard, ça c'est indiscutable. Par contre, dire aujourd'hui c'est un meilleur meneur que Lillard, pas totalement d'accord.
Je suis
d'accord.
Pas sûr que le Brunson là, tu vois, des Knicks, il menait les Trailblazers que Lillard a mené en finale de conférence.
Sûr et certain que non pour moi, mais bon. Et j'aime beaucoup Jalen Brunson et j'adore les Knicks. Donc... Ok, si Jokic gagne un MVP et un MVP des finales, il rentre tout droit dans un top 10 all-time.
Oh,
c'est dur. Donc non, je dirais
pas tout à fait d'accord.
Non, pas tout à fait d'accord.
Ah ouais, t'es pas du tout d'accord. Moi, je suis
pour
pas tout à fait d'accord.
Pour l'instant, je suis pas du tout d'accord. Top 10 all time. Hein.
Ouais, all time, non, top
pareil,
10.
La notion d'impact culturel.
On déplace Bird et tout du truc.
Par contre,
ils s'en rapprochent.
Ils s'en rapprochent, bien sûr, ils s'en rapprochent.
Avec titre MVP des finales MVP, je pense qu'il est genre top 12.
Et du coup, parce que Kawhi, il a été MVP deux fois des finales avec deux équipes différentes.
Ouais.
Et il n'est pas top 10 all-time.
Ouais, mais...
Il n'y a pas que ça, mais...
Oui, c'est vrai. Mais oui, non, c'est vrai.
Mais il s'en rapproche déjà dans la hiérarchie des...
Je ne suis pas d'accord. C'est vrai que j'avais dit pas tout à fait d'accord, là, je ne suis pas d'accord. Mais
par contre, il a le droit d'y
croire. Totalement d'accord.
Voilà, parce que ça veut dire que s'il fait ça, c'est-à-dire que là, dans la trajectoire, il s'en rapproche. Aujourd'hui, pour moi, il ne peut pas y prétendre. Si sa carrière, c'est comme si tu disais Dirk Nowitzki, qui est une légende. Hein. Nowitzki, personne ne le met top 10 all-time. Même Julien chez nous, qui l'adore, je ne pense pas qu'il le mette top 10 all-time. Jokic, en termes de palmarès et d'impact, ce serait similaire. Tu restes toute ta carrière, pour l'instant, dans la même équipe. Un joueur un peu discret, en tout
ça,
cas humble et tout
ça.
Ça
plus gros que Nowitzki, du coup.
Oui, là, s'il fait ça, voilà. C'est pour ça que je disais à l'heure actuelle. Mais s'il fait ça,
niveau de jeu...
il se rapproche avec... Il y a les stats, le niveau de jeu... les MVP en saison régulière, il serait sur la trajectoire et ce serait déjà assez exceptionnel. Donc non, moi je suis pas du tout d'accord. Il sera pas top 10 all time directement parce que c'était ça la formulation. Il rentre tout droit dans le top 10. Donc non, pour moi. Miami a le meilleur coach de la ligue et l'un des meilleurs duos, mais aussi et surtout l'un des pires GM de la ligue sur les dernières années au vu des trades manqués ou pas. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Non, je suis pas d'accord parce que c'est aussi le GM qui trouve les joueurs, que tous les joueurs, les Gabe Vincent, les Max Truss, tu vois, et Udé Smith, tous ces mecs-là, c'est aussi le GM qui les trouve. C'est pas Spoelstra qui les trouve, tu vois. C'est
donc l'un des pires, ça me paraît. Je suis pas du tout d'accord.
C'est plusieurs joueurs, c'est plusieurs personnes. C'est pas juste le GM, c'est aussi les scouts, etc. Donc Je ne suis pas d'accord.
Que Riley est un peu... Enfin, forcément, il est, déjà, bon, il n'est pas tout jeune. C'est déjà exceptionnel qu'il soit autant dans le coup à cet âge-là et avec tout, autant d'années au compteur. Il a peut-être eu des fails dans l'approche. Il a peut-être manqué de souplesse ou il a peut-être surcoté des... Il l'a fait un peu à l'ancienne. Il y a les scènes, les fameuses scènes où il est au téléphone avec Thibodeau et il lui raccroche à la tronche. Il est peut-être moins souple que ce qu'il faudrait pour l'époque actuelle, mais de là à dire c'est l'un des pires, non, je suis totalement pas d'accord.
Puis c'est des bons coups à la draft quand même, Bam Adebayo.
Hein. Ah oui.
Bam Adebayo, c'est 14e choix, quoi. Je crois qu'on se rend pas compte.
Tyler Herro, c'est pas mal.
Tyler Herro, c'est 13e choix. Non, ça c'est le GM, hein. C'est pas que Pat Riley. GM, Rémi Raquez Junior.
Ouais. Donc, pas du tout d'accord. C'est pas l'un des pires. À la fin de la saison prochaine, alors c'est la dernière hot take d'Alexandre, à la fin de la saison prochaine, en ayant une saison à 35 minutes par match, Victor Wembanyama sera à la fois Defensive Player of the Year et Top 10 joueur NBA. Dès l'année prochaine. C'est possible, hein, mais...
Le Top 10 joueur NBA, je suis pas d'accord. Mmh. Parce que c'est pas qu'une histoire de stats, en fait. On résume trop vite aux stats parce que... Parce qu'on ne peut pas regarder tous les matchs et du coup, on a besoin de s'appuyer sur quelque chose et on se repose sur des stats pour juger des joueurs et juger leur valeur et quantifier leur valeur.
Ouais.
Et il y a du vrai, mais même avec les stats avancées, tu vois, il y a du vrai, mais il y a aussi du faux. Tu peux les tordre dans tous les sens. Je ne pense pas que Wembanyama sera un des 10 meilleurs joueurs de la Ligue dès l'an prochain, mais il n'en sera pas loin, je pense.
Moi, je mets pas ça. Je n'exclus pas du tout la possibilité de là, l'enchaînement
de 10 meilleurs. Mais ça veut dire quoi, les 10 meilleurs? Tu vois, parce que 10 meilleurs, si tu es un des 10 meilleurs joueurs de la Ligue, je vais te dire, là, tu prends n'importe quel lequel des 10 meilleurs joueurs de la Ligue, les Spurs, ils font pas une saison à 20
minutes. Non, ouais, je pense aussi.
Excuse-moi, tu prends Tatum, tu le mets aux Spurs, les Spurs, ils gagnent combien de matchs? Ils sont peut-être même en course pour le play-in. Et pourtant, ils n'ont pas une bonne équipe, hein. Tu prends Joel Embiid, tu le mets aux Spurs. Les Spurs, demain, ils gagnent 45 matchs. Donc, on verra combien de victoires les Spurs de Wembanyama arrivent à atteindre. Ça va très vite être un des 10 meilleurs joueurs de la Ligue. Peut-être qu'il le sera à la fin de la saison
d'arrêt. C'est ce que j'entendais par là. Moi, ouais.
Sur les 2-3 derniers mois, on se dira peut-être « Ah, mais attends, il y a quoi ? Il y a peut-être 8 mecs meilleurs que lui en NBA. » Peut-être même qu'il le sera très rapidement. Tu vois. Peut-être que je me trompe et qu'il le sera très, très vite. Mais pour moi, le facteur qui permettra de juger, ce sera de voir à quel point il arrive à élever le niveau de son équipe.
C'est pas
juste mettre 30 points, prendre 15 rebonds, mais Wembanyama le sera très vite et je pense que même assez vite, il sera dans le top.
Mais c'est pour ça que je n'exclus pas. Alors le DPOY, évidemment, là, s'ils n'étaient pas derniers, ils seraient quasi unanimement, je pense, s'ils étaient un peu mieux classés. Voilà. Et top 10 joueur NBA, je ne l'exclus pas non plus, mais à la fin de la saison, pas d'entrée à la rentrée. Ce n'est pas parce qu'il aura fait les JO et que j'espère qu'il aura mené les Bleus assez loin qu'il sera d'emblée top 10. Je veux dire, il faut regarder le nom des mecs devant lui. Quoi. C'est ouf.
Je ne l'exclus pas non plus. Pourquoi j'ai mis ce petit bémol? Parce que je sens que Wembanyama va très vite être annoncé comme tel. Je te donne un exemple. Je pense que Wembanyama, l'an prochain, il sera à 28 points, 11 rebonds, 4 contre, 4 passes de moyenne. Le genre de stats qu'il y a 3 mecs, peut-être 2 mecs, tu vois, qui
c'est fou.
Capables de faire. Tu vois, ouais. Et ça ne veut pas dire qu'ils l'ont fait. Tu vois. Et avec ce genre de stats, tu vas avoir des classements de The Ringer, d'ESPN ou Wembanyama, il sera le 8e meilleur joueur de la Ligue, le 7e meilleur joueur de la Ligue, peut-être des fois. Tu vois, des trucs comme ça. Et je pense que ce ne sera pas qu'une affaire de stats, parce qu'il faudra voir à quel point les Spurs élèvent leur niveau de jeu. Tu vois.
Mais,
c'est pour ça que je dis, je n'exclus pas le fait qu'il le soit. Je suis sûr, par contre, qu'il sera considéré comme tel. Et pour moi, le vrai révélateur, ça sera de voir à quel point il élève le niveau de jeu de son équipe.
Ouais, parce que quand j'y pense, faudrait voir à l'époque quand Luka a fait sa saison rookie dans la foulée, est-ce qu'il était pas si loin des top des classements top 10, je pense. Hein.
Mais parce qu'il a élevé son équipe.
Il a élevé son équipe.
Luka, au bout de combien de temps, je regarde, au bout de combien de temps ils font les playoffs?
Deuxième saison.
Je trouve que Luka, je sais que ça va sembler fou, mais Luka, il a fait une meilleure saison rookie que Wembanyama. Je vais passer pour un hater là, pas du tout.
Tu verras, il y a une question là-dessus après, c'est marrant, tu verras. C'est la prochaine, c'est amusant.
Je regarde juste en quelle année Luka, il fait les playoffs. Dès la deuxième année, Luka, il mène les Mavericks à 43 victoires et c'est pas une saison à 82 matchs, hein, c'est une saison à 75 matchs. Et il les mène à 43 victoires. C'est la deuxième saison dans la ligue de Wembanyama, de Luka Doncic. Tu vois, il les mène en playoffs et il perd en 6 manches contre les Clippers. Donc, on verra. Est-ce que Wembanyama, il mène donc, c'est 43 victoires. Ça correspond à 57% de victoires. C'est l'équivalent d'une équipe qui gagne 47 matchs. Hein, 47 matchs. Est-ce que tu penses que les Spurs l'an prochain ils gagnent 47 matchs avec Wembanyama?
Comme ça, je pense pas, mais il y aura une progression significative, mais je suis d'accord. Et du coup, on se rendra compte, et tu verras à la prochaine question, que la saison rookie de Luka et son tout début de carrière, il est assez exceptionnel. Question donc, la suivante, de Lux ou Lux, désolé, je ne sais pas pour la prononciation. Tout d'abord, un message pour vous remercier pour vos podcasts, vous m'accompagnez dans tous mes allers-retours en voiture. En prenant l'hypothèse improbable que Wembanyama, que Wembanyama sera le Rookie of the Year 2024, quel Rookie of the Year des 20 dernières années aurait pu devancer Wemby s'ils avaient été dans la même promo? Et alors du coup, j'ai listé un peu ceux qui ont été...
C'est différent.
J'ai listé tous ceux des 20 dernières années si tu as envie, mais okay. Ne serait-ce que, là on vient de parler de Luka Doncic, alors les stats peut-être peuvent paraître moins anormales que celles de Wembanyama, mais il y a quand même... Il était en 21-8-6, Luka, sur sa saison rookie. On parle que de la saison rookie. Hein. Mais sur l'impression dégagée, j'exclus pas qu'il ait fini...
Une trentaine de matchs, quoi.
Ouais, mais je pense qu'il aurait pu finir devant Victor.
Je pense aussi. Sur les 20 dernières années, il faut remonter à 2003. Vas-y, cite-les-moi un.
Alors, je te l'ai dit, je les ai tous. Je les avais tous.
C'est incomparable. Pour un truc tout bête, mais regarde, je vais prendre l'exemple de LeBron.
Ouais, bah ça LeBron, commence par là. Ouais.
Pas du tout dans la même NBA. Mm. Et du coup, les stats, c'est complètement différent. Le 25-5 de LeBron,
ouais, c'est déjà fou.
Peut-être l'équivalent, c'est peut-être l'équivalent d'un 23-8-8.
Exactement.
Tu vois, de nos jours, et peut-être
faut
même
en contexte.
Sous-évalue. Voilà, c'est ça.
Faut mettre en contexte.
25-8-8.
Mais peut-être qu'un LeBron.
Si LeBron il fait 25-8-8, tu lui donnes le rookie
c'est possible,
direct, tu vois.
C'est pour ça. Donc,
même devant Wembanyama.
LeBron, on dit c'est possible. Donc LeBron, possible. Il aurait pu finir devant Victor, Luka aussi. Et si je te fais année par année, donc après 2004. Donc en 2005, c'est Okafor qui est élu rookie de l'année, 15 points, 11 rebonds, avec Dwight Howard la même année qui est en 12-10. Bon, on est d'accord que non. 2006, Chris Paul, 16,6 passes, rookie de l'année. 2007, Brandon Roy. 2008, Kevin Durant. La saison rookie de Kevin Durant avec Seattle,
je pense que celle de Wembanyama est plus impressionnante.
Ok. Elle est bien méchante, sa première saison, quand même. 20 points de moyenne.
Non, mais ils sont très faibles. Il y a des mauvais pourcentages, je me souviens. Il était très fort, hein, j'adorais, mais c'est très, très faible. Les Sonics, c'était pour moi une des comparaisons de Wembanyama. C'était la saison de Kevin Durant. Ouais. Mais je trouve que celle de Wembanyama est plus impressionnante.
2009, Derrick Rose. Je sais pas si
Non, mais là, pour l'instant, pour moi, Wembanyama, à part LeBron, Wembanyama est au-dessus de tout.
Bon, 2010, Tyreek Evans. 2011.
Qui est une des meilleures. Qui est une saison de fou pour
saison
un
de fou.
Au passage. Ouais. 25-5. Pour l'instant, Wembanyama au-dessus de tous ces mecs-là, je pense.
Alors, 2011, tu vas voir. 2011, Blake Griffin. La saison de Blake Griffin.
Elle est folle. Non, elle est folle.
Alors, sur les stats, 22,5 et 12,1 rebonds. Et l'impression visuelle, la hype.
C'est insane.
C'était totalement dingue.
Après, la saison de Wembanyama, visuellement, elle est folle aussi. Mais Blake Griffin, dès sa première saison, je pense qu'il gagne plus. Enfin, il gagne beaucoup plus de matchs.
Il a rendu les Clippers sexy. Les gens se regardaient tous les matchs. Il y a ce côté-là qu'on a eu un peu avec Wembanyama, parce que les gens regardaient les Spurs alors qu'ils ne les auraient pas regardés. Griffin, il faut reparler de cette période-là. C'était fou. L'intérêt qu'il a généré sur les Clippers et sur lui, en dunkant sur tous les mecs tous les soirs avec des stats de dingue. Donc, je pense
qu'il avait une meilleure équipe, Griffin.
Il avait une meilleure équipe. Mais c'est pour ça aussi que si la question c'est de dire est-ce qu'il aurait pu être rookie de l'année devant Victor, je pense qu'il aurait été élu rookie de l'année devant Victor.
C'est ça, il y a la meilleure saison, qui est rookie de l'année, il y a plein de trucs différents. Griffin, il y a débat. Je trouve que Griffin, il y a débat, effectivement.
La manière dont il a marqué les esprits, je pense qu'il aurait très bien pu être élu devant. Je ne dis pas que c'est qu'il mérite dans l'absolu, mais je pense que les gens auraient pu voter pour lui devant Victor.
Ouais.
2012, Kyrie. Bon, 18,5 en points.
Il avait fait
passes.
Une saison, très belle saison, très mais sympa. Il n'aurait pas été élu.
Ouais. 2013, Damian Lillard, 19,6 passes. Belle saison aussi, mais je ne pense pas qu'il aurait été élu. Sauf si tu as une objection, évidemment. Mais...
Non.
2014, Michael Carter Williams. Avec son presque quadruple-double lors de son quatrième match en carrière contre le Miami Heat de LeBron. Mais non, je ne pense pas qu'il aurait été élu. 2015, Andrew Wiggins. Non. Non. C'était pas mal, mais il ne faut pas abuser. 2016, Karl Anthony Towns. Belle saison aussi, mais a priori, je pense pas qu'il aurait été élu. 2017, Malcolm Brogdon. On sait que c'est la saison de Joel Embiid, mais qu'il n'avait pas joué à ses matchs.
Il est élu par défaut.
Ouais. Élu par défaut. 2018, Ben Simmons. Belle saison aussi, mais je pense pas qu'il aurait été élu devant, quand même. 2019, Luka Doncic, on en a parlé tout à l'heure. Je pense que Luka est devant. Je pense que Luka, s'ils sont la même année avec Victor, il est devant, pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant. 2020, Jamorant.
Je ne sais pas s'il est élu à sa place, mais je trouve qu'il a fait une meilleure saison rookie. Mais
mm-hmm. Bien sûr que ça se discute totalement.
Ou qu'il était plus fort. Non, pardon, pas qu'il a fait une meilleure saison rookie. Je trouve qu'il était peut-être plus fort que, que Wembanyama.
Ouais. Très possible. 2020, Jamorant. 2021, LaMelo Ball. 2022, Scottie Barnes. Et 2023, Paolo Banchero.
Non, je pense qu'il n'y a que Doncic et Griffin sur lesquels tu peux débattre.
LeBron, ça peut se discuter pour la live.
Ah oui, aussi. Non, mais LeBron aussi, mais voilà. On ne l'a pas cité. Ouais. Mais oui, non, pour moi, LeBron, c'était. En fait, je confonds. C'est dur de savoir est-ce qu'on parle de meilleur rookie. Est-ce que c'était un meilleur joueur. Au final, est-ce que c'était un meilleur joueur lors de sa saison rookie. Est-ce qu'il a fait une meilleure saison. Est-ce qu'il aurait été élu Roy à sa
c'est
place
plutôt assez. Est-ce qu'il aurait été élu avec le vote des gens et avec la médiatisation, tout ça. C'est ça qu'il faut prendre en compte aussi, ce qu'auraient voté les gens. Est-ce qu'avec le vote des journalistes à l'époque, est-ce que Victor aurait fini devant. C'est ça qu'on ne sait pas. On ne peut pas savoir, mais on peut supposer, sur les saisons rookies effectuées, je suis d'accord, LeBron, Luka et Blake Griffin. Voilà, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Question de Alex Joe. Avec les Wembanyama, Koulibaly, Fournier, Gobert, Yabusele, Rizaché, Alex Sarr et l'arrivée de nombreux autres jeunes, ne pensez-vous pas que l'équipe de France peut dominer l'Europe et titiller les USA pendant plusieurs années comme l'a fait l'Espagne de 2008 à 2016? Et d'ailleurs, comment expliquez-vous que la France soit derrière le Canada l'équipe la mieux représentée en NBA alors que les Espagnols sont en train de disparaître petit à petit?
Alors, voilà. Attends, d'abord.
La première, c'est est-ce qu'on peut titiller pendant plusieurs années?
Oui, je pense que oui. Je pense que la France va devenir la deuxième grande nation du basket. Voire peut-être la première sur l'espace de quelques compétitions. Genre, je ne serais pas surpris qu'il y ait une Coupe du Monde où ça gagne, en fait. Je pense que faut. Ah, peut-être que je vise trop, mais Wembanyama, pour moi, c'est bien. J'ai tellement nuancé Wembanyama que là, je vais pouvoir me lâcher. Je pense que Wembanyama va mener. Ça va être le meilleur joueur du monde, en fait, je pense, à un moment.
Ouais.
Ou pas loin, tu vois. Lui, Doncic, ces gars-là, il y aura une période où c'est. Et Wembanyama, en tant que meilleur joueur du monde, avec des talents autour de lui, il y en a un paquet. Il y en a d'autres qui poussent derrière. Rizaché, Koulibaly, Wembanyama, Sarr, Salin, des jeunes qui sont actuellement dans le centre, dans les centres de formation ou au centre fédéral de la Fédé. Enfin, il y a du talent en pagaille et je pense que la France va être très 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 solide parce qu'elle a déjà sa superstar. C'est le même principe qu'en NBA. Il faut d'abord ta superstar qui te fait passer un cap. Les Espagnols ont eu Pau Gasol qui les a menés haut. Je pense que Wembanyama, il peut mener la France très.
Alors, j'adorerais que ton scénario se réalise. Juste pour le nuancer, c'est que les Espagnols, ils avaient une identité de jeu qui s'est. Là, ils nous parlent de la période 2008 à 2016. Il y a une identité de jeu, une façon c'est de vrai. Faire qui a été reproduite. Alors, il y a les cadres qui sont restés, hein, globalement, mais même quels que soient les absents sur les compètes, ils ont toujours réussi à être au top. En France, on a beaucoup plus de talents individuels. Hein, que bon, même cet Espagne-là, hein, et pourtant avec des joueurs générationnels comme Gasol, ma crainte c'est ça, c'est est-ce qu'au niveau de la formation et tout ça, est-ce qu'on va réussir à avoir un truc cohérent d'année en année sur le style de jeu, sur
On verra qui est le sélectionneur après la compétition. Ce serait intéressant de savoir si j'avais vu un tweet qui que ce soit qui gagne la Coupe d'Europe entre Paris et Bourg, le coach doit être sélectionneur après les JO.
Je suis d'accord avec toi. Et je dis pas ça contre Vincent Collet d'ailleurs, qui vu la carrière qu'il a faite.
C'est lui qui l'arrête en fait. Là, c'est
oui, oui, bien sûr. Non, non, mais
ce sera plus lui les sélectionneurs.
C'est-à-dire que là même reproche.
Pas de bêtises. Attends, excuse-moi.
C'est pas officiel. C'est pas officiel.
Okay, mais
on suppose son contrat s'arrête après, donc on suppose. Mais c'est tout ça pour dire que là, ce que je critique sur les trous d'air qu'il y a pu avoir. Le dernier en date au Mondial, le fait qu'il y ait certaines compétitions qui nous paraissaient gagnables et où ça n'a pas marché, c'est pas de la faute de Collet, c'est un peu le système qui fait qu'on a eu du mal avec certaines absences. Voilà. L'identité de jeu dont je parle tout le temps, elle a été ultra présente chez les Espagnols et ça leur a permis de passer d'année en année et d'être compétitif. C'est juste ça mon... Peut-être que l'arrivée de l'avenue d'un Wembanyama fera que ça va changer et qu'on arrivera d'année en année à avec les nouvelles générations, j'y crois beaucoup aussi, mais je ne sais pas si on peut être la nation numéro 1 et si on peut faire comme l'Espagne. C'est un modèle qui est quand même exceptionnel et qui est difficile à reproduire.
Non, mais tu soulignes un point très intéressant et très juste, je pense. Le truc, c'est qu'au moins, on va avoir un noyau dur jeune qui va grandir avec Wembanyama. Je pense que les JO, on sera évidemment trop juste. C'est encore de façon même un changement. Les JO, c'est la première étape du changement des générations. Et on sait que les générations, généralement, elles se cassent un peu les dents. Tu vois, Tony Parker, la génération Tony Parker, il y a eu leurs échecs. La génération Wembanyama, elle va devoir passer par des compètes où tu as Rizaché, Bilal, Sarr, peut-être, on ne sait pas s'il y aura Sarr d'ailleurs, ou Wembanyama. En tout cas, il y aura des mecs comme ça dans le 5 majeur, vraiment cadre établi. On est très attendu, on a des jeunes qui fonctionnent fort en NBA, on a Wembanyama, on se dit ah, on va tout gagner, puis pam, on se pète les dents en quart ou en demi, ça va arriver, tu vois. Mmh. Ça va arriver sans doute même pas que au JO, peut-être qu'il y aura une autre compète derrière où on se pète les dents. Le temps que Wembanyama il grandisse, qu'il ait faim, tu vois, je pense qu'il a déjà faim, mais vraiment au mode il se dit non, mais c'est, par contre là, cette compète, je la vise là, l'Eurobasket telle année, je vais arriver, c'est mort, il n'y a personne qui nous bat. Et ça, je pense que ça va se faire. Et si tu as un noyau dur qui grandit ensemble, effectivement, il y aura toujours ces questions, comme tu le dis, sur la préparation, la formation, etc., le style de jeu. Mais avec des mecs qui jouent ensemble chaque été pendant 3-4 compétitions, il y a moyen qu'au bout d'un moment, en fait, ils se connaissent. Et si tu es au complet, c'est la différence avec les Espagnols, tu vois, ils pouvaient se permettre de ne pas être au complet. Mais si tu es au complet, je pense que ça peut commencer à taper très, très sérieusement dans le très, très haut du panier. Peut-être pas les Jeux Olympiques, j'ai l'impression qu'il y aura toujours des superstars américaines. Mais et encore, je trouve que l'écart est tellement faible. La France a perdu quoi, 4 points en finale des JO contre le Team USA.
Ouais,
moi, je serais pas surpris que la France prenne une médaille d'or sur une Coupe du Monde ou un truc comme ça.
De toute façon, ça va aussi dépendre des États-Unis. Je veux dire, aussi, ont leur propre analyse à faire de l'évolution des joueurs, de leur formation et tout ça. Donc ça va aussi dépendre de ça. Ça aussi, c'est pas forcément dépendant de l'équipe de France. Mais oui, on peut, évidemment, l'avenir, il semble radieux. Les individualités sont là. Le vivier est exceptionnel. Bon, comme dirait Laurent Paganelli, en tout cas, on te le souhaite, hein, à l'équipe de France. On leur souhaite de réaliser ce que nous dit Alex Joe. C'est-à-dire d'être la nation numéro un. Et oui, la deuxième partie de question, c'était plutôt comment est-ce qu'on explique que la France soit la meilleure présente en NBA. C'est pour ça. La réponse est simple. C'est parce qu'on forme énormément d'individualités très, très fortes. Il y en a de plus en plus qui sont prêts pour jouer en NBA.
De talent,
voilà, c'est tout simplement ça. Et l'Espagne a disparu petit à petit pour des raisons qui leur sont propres et qu'il faudrait analyser ultérieurement.
Mais ils sont toujours très bons en jeunes, donc il y a un moment où ça va.
Ils sont excellents jeunes, c'est une question de peut-être un petit trou le temps que les jeunes arrivent un peu plus haut, parce qu'ils continuent d'être extrêmement performants dans les compétitions, ça bouge pas. Ils attendent aussi leur, au pluriel, joueur générationnel, la génération Gasol.
On a des joueurs dont le jeu parfois se retranscrit mieux en NBA, en fait, mais les Espagnols, tu peux toujours compter sur eux niveau basket, il y a quelque chose. Ouais. Ça va revenir à un moment.
Question d'Audrey.
Au passage, c'est juste les champions d'Europe en titre.
Au passage.
c'est les Espagnols. Hein.
Ils sont toujours là. Question d'Audrey. Le premier tour devrait voir s'affronter les Clippers et les Dallas Mavericks. Alors, devrait, au moment où la question est envoyée, c'était encore en suspens, mais c'est le cas. Devrait voir s'affronter les Clippers et les Mavericks. Et j'ai l'impression que c'est vraiment le pire premier tour possible en termes de scénario. Deux équipes qui ont fait un all-in en lâchant presque tous leurs assets pour viser le titre. Et l'une des deux sera éliminée au premier tour. Ne pensez-vous que l'équipe perdante fera tout exploser cet été ?
Entre Dallas et les Clippers ?
Ouais.
Non. Alors, en tout cas, pour Dallas, non. Et pour les Clippers, je ne pense pas, parce que... Il faut que je regarde les contrats des joueurs. Attends.
Bah, Paul George, pour les Clippers, c'est assez clair que Kawhi a prolongé, Paul George pas encore.
Oui, il y a James Harden qui est libre, Paul George qui est libre. Et Russell Westbrook qui est potentiellement libre. Du coup, il n'y aurait que Kawhi à être aidé si tu décidais de tout reconstruire.
Ce ne sera pas le cas, je pense. Avec la nouvelle salle, il faut penser à ça.
Honnêtement, je ne pense pas non plus que ce sera le cas. Et tu as raison, il faut souligner qu'il y aura une nouvelle salle.
Tu vois Balmer, qui a vendu son truc et qui coûte un bras. Ils ont tout de suite prolongé Kawhi. Il faut pouvoir mettre sur l'affiche des stars pour que les gens y viennent. Ils ont déjà une fanbase, mais là, ils sortent de LA, ils sont à Inglewood, ils vont devoir attirer les gens du coin, recréer un truc, t'es obligé, ils vont pas venir voir, j'ai pas d'idée en tête, mais s'ils se reconstruisent, ils auront aucun joueur du niveau de Kawhi, Paul George ou James Harden. Donc moi je pense que quoi qu'il arrive, après il peut y avoir d'autres changements, hein, le coach, le GM, machin, ça peut bouger, mais je pense que bon, Kawhi est déjà là, je pense que Harden va prolonger, que Westbrook aussi, parce qu'eux sont contents d'être là aussi. Il y a l'inconnu Paul George, mais je pense que c'est plus son agent qui pour l'instant manœuvre pour avoir toutes les exigences satisfaite dans les négociations. Donc non, je pense pas que les Clippers vont tout faire péter. Et pour les Mavs, je pense pas non plus parce que Luka a l'air heureux. Alors il fera la gueule s'ils sortent au premier tour. Kyrie a l'air content. Il y a des joueurs relativement jeunes autour, plus de quoi faire. Je pense pas que ça va péter. Et il faudra mettre en relief, il faudra se dire qu'ils ont eu un premier tour hardcore, quoi. C'est super dur.
Le vainqueur de cette série risque d'aller loin, en fait.
Et c'est ça.
Donc tu pourras regarder quelques semaines après et te dire, ah ouais, en fait, on a perdu contre l'équipe qui allait jusqu'à Exactement. Tel niveau de la compétition, quoi.
Ouais. Donc on verra, mais effectivement, c'est une série ultra excitante et forcément.
Mavericks in six.
Mavs in six pour Antoine Pivot. J'y ai pas réfléchi encore, mais j'aurais tendance à. J'attends de voir l'état de Kawhi quand même. Si Kawhi elle est là et qu'on sait qu'il est à 100%, je me méfierais, mais. Je me laisse encore du temps pour faire. De toute façon, on fera nos pronostics, que ce soit dans un podcast ou dans la late, et vous nous donnerez les vôtres. Dernière question du jour.
Yes.
Que je note le nom de notre cher auditeur, c'est Bastien. Bastien qui nous vient de Suisse. Merci et bravo pour votre super taf. On vous écoute pas mal en Suisse. Vos personnalités respectives sont une vraie valeur ajoutée à votre expertise. Et ici, on s'y connaît. Ma question. Dans une des dernières et mythiques late sessions, vous avez rapidement discuté de cotes pour le titre et j'aimerais vous relancer sur cet exercice que je trouve intéressant. Alors, voici les 15 meilleures cotes de notre loterie romande qui sponsorise mon équipe de 5e division suisse. C'est faux, mais big up à Yverdon-les-Bains. Oui, je suis aussi un ringard trentenaire. Donc ma question, si je devais recevoir 20 balles de ma grand-mère pour faire un bon coup, en pariant donc, quelle serait pour vous la meilleure option parmi celles-là? Donc il nous donne les cotes pour le titre. Donc il faut prendre en compte ce qu'on pense évidemment sur l'issue de cette saison et aussi sur la cote intéressante ou non. Je précise que nous n'avons pas de partenariat avec des marques de paris sportifs, c'est juste pour l'exercice intellectuel qui est assez amusant. On a Boston à 2,80, Denver à 4, les Clippers à 8,70. Enfin, donc les Clippers, ils ont la troisième cote, là, ils sont favoris, troisième favori pour le titre quand même. Milwaukee 10,50, OKC 16, Dallas 23, Phoenix 23, Minnesota 25. Bon, après, je les donne parce que j'ai pas l'impression que ce soit des... Mais bon, Philadelphie 26, Miami 36, New York 39, Cleveland 39, comme les Lakers qui sont à 39 aussi. Golden State 55, énorme
cote. Milwaukee, ils étaient où? Milwaukee, c'était où?
Milwaukee, ils sont à 10,50, donc c'est 1, 2, 3, 4, 4e cote. Et donc Golden State 55 et New Orleans 75 parmi les équipes qui sont encore engagées. Est-ce qu'il y a une cote comme ça qui te titille? Tu te dis c'est pas normal.
Le problème, c'est que c'est des cotes pour le titre. Bah, je trouve que celle des Mavs, elle est trop forte. Hein. 23, c'est risqué de la part des bookmakers, mais je vois pas les Mavs gagner le titre. Mais je trouve que c'est très élevé parce que je pense que Dallas a une vraie chance d'aller en finale NBA. Et si pour X raisons Jason Tatum il se blesse ou tu vois qu'il y a un mec des Celtics qui se blesse pendant le parcours et que ta finale les Celtics sont pas au complet, tu peux avoir Doncic qui va chercher son premier titre. Et si tu as misé sur 23, et c'est vrai que moi je me plaignais que c'était 23, j'étais en mode ouais la cote il faudrait qu'elle soit à 40 parce que j'étais en mode ouais j'ai l'impression que c'est une bonne prédiction, tu vois. Ouais. Mais en fait ça allait plus, les Mavs peuvent aller loin. Limite, ça me fait peur maintenant de voir que tout le monde le dit. Tu vois, je me dis mince. J'avais envie qu'ils aient faim. J'avais envie qu'ils soient en mode personne croit en nous. Et j'ai l'impression que Luka et Kyrie, ils ont un peu ce truc. Si tu crois pas en eux, ils vont te. Ça, j'ai le meilleur truc qui peut arriver aux Mavs, c'est qu'ils donnent le MVP à Jokic et qu'ils soient en mode quoi. Mais je vais vous montrer qui est le meilleur joueur de la ligue, tu vois. Mais. Ouais, Dallas 23, ouais, ça Dallas me semble risqué pour les sites de paris sportifs. Hein. Genre que OKC et les Clippers, c'est une meilleure cote. Je trouve ça risqué, en fait.
Je trouve que les Clippers, 8,70, c'est-à-dire que pour eux, c'est en Suisse, donc je n'ai pas regardé sur les autres sites, hein, mais les Clippers, c'est la troisième équipe qui a le plus de chances de gagner, selon eux, après Boston et Denver. Boston et Denver, c'est logique, et c'est logique que Boston soit favori, mais moi, comme ça, vu que je vois Denver faire le back-to-back, une cote à 4, je trouve ça cool, je la tenterai, tu vois. Si t'as 20€ pour en gagner 80, c'est sympa. Mais si tu veux taper gros, ouais, Dallas à 23, c'est bien. Et j'ai même envie de dire, si tu veux vraiment faire le fou, Golden State à 55, ils ont été champions il y a 2 ans. C'est très peu probable, mais juste pour la cote. C'est ça que les fameux paris pour la cote. Tu dis, non, c'est pas normal, 55, donc je joue. Donc, moi, je mettrais ça. Et les autres, ça me paraît un peu... les fans des Lakers diront que 39, c'est un manque de respect. Ils ont peut-être pas tort. Mais ouais, voilà. Je pense que... Ouais, non, les Clippers, je les joue jamais à 8,70. C'est pas
Denver
possible.
Est à 4.
Denver est à 4.
Même Denver, que Denver soit à 4, C'est bon. Je pense pas que je vois pas Denver regagner, hein, mais
ouais,
mais
quand même, ils sont.
Je les aurais mis un peu plus proche de Boston, quoi.
Ouais. Et Boston de 80, après, si on est persuadé que c'est la meilleure équipe et qu'ils vont rouler sur tout le monde, de 80, c'est pas mal, c'est pas du 1,40. Ouais.
Ah, tu mets 100 balles, tu prends 280.
Quand tu regardes les cotes en WNBA, bon, il y a moins d'équipes, hein, mais au début de saison, Las Vegas et New York, c'était l'une des deux à 1,30 ou 1,40, là, 2,80, pas mal. Donc voilà notre pronostic éventuel sur ces cotes, en tout cas notre analyse de ces cotes. On va se laisser là pour cette semaine. On a déjà répondu à pas mal de questions. Continuez de nous en envoyer, ça fait toujours plaisir. Puis vous envoyez toujours des petits mots sympas, ça on adore. C'est vraiment, ça fait plaisir. Ça nous booste.
Pour finir sur les cotes, si jamais parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui jouent beaucoup au pari sportif, juste si je peux me permettre,
je t'en prie.
Si vous nous écoutez, autant que ça rentre dans vos oreilles, peut-être ça vous fera quelque chose, on ne sait pas. Ne jouez que si l'argent que vous avez, voilà. Sachez-le.
C'est ça.
Vraiment, je répète, je sais qu'il y a des pubs partout pour tous les sites de paris sportifs. Ça s'associe d'ailleurs beaucoup avec des podcasteurs.
Oui.
Ne jouez que l'argent que vous avez à jouer. Voilà.
Ça, on ne sait jamais. Il faut que ça ait aucune implication. C'est-à-dire que là, vous parlez à des mecs là qui sont en transe parce qu'ils mettent 5 euros l'été sur des étapes du Tour de France et qu'on gagne 7 euros.
Je peux me permettre de perdre 5 euros.
Voilà,
quoi.
C'est ça.
Exactement, si on gagne sur les étapes du Tour de France.
C'est ça.
On ne gagne pas des masses.
Et pourtant, si Antoine, si y a son poulain qui va gagner l'étape, il va fanfaronner pendant 3 jours comme s'il avait gagné 1 million. Et il a bien raison parce qu'il faut que ça reste du fun et il ne faut pas que ce soit un moyen de s'enrichir. Voilà. De toute façon, on n'est pas là pour faire une campagne de prévention. Hein. Antoine a raison. Faites très attention et il faut que ça reste juste du jeu et pas que ça ait un impact sur vos finances et sur votre santé et votre vie. Voilà.
Sur ces belles paroles, on peut vous souhaiter à tous un bon week-end. Et ce week-end, sur la chaîne, il y aura les rendez-vous habituels, le Moob Deep, le Hoop Culture. Et on se retrouve lundi pour un nouveau CQFR où on pourra débriefer ensemble les affiches du play-in, les premières affiches de play-off et les derniers matchs de la saison régulière. Bon week-end à tous.
Bon week-end, ciao.
Ciao.